exigé que tout projet de réorganisation de l'État comporte le vote des femmes. Merci.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, quatrième épisode de notre série où avec l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalic, nous tentons d'élucider un mystère, pourquoi les Françaises ont attendu 1944 pour obtenir le droit de vote. Un combat, nous l'avons vu, qui a débuté pendant la Révolution française, s'est poursuivi en 1848 et a repris courageusement sous la Troisième République. Mais au lendemain de la guerre 14-18, les féministes ont toujours face à elles un véritable mur, en apparence indéboulonnable.
Les femmes votent partout, sauf en Bulgarie, en Yougoslavie, en Suisse et en France. Cette situation peut-elle durer? Les Français sont venus en foule dire non.
La fin de la guerre 14-18 voit s'ouvrir une période de grands changements, notamment pour les femmes. Entre 1915 et 1923, 14 pays accordent des droits politiques aux femmes. Pour les Françaises aussi, l'heure du droit de vote semble enfin venue. Hubertine Auclert, qui est morte en 1914, n'est donc pas dans le public, le 8 mai 1919, pour assister à la Chambre des députés au débat sur le vote féminin qui s'ouvre ce jour-là. Mais ses camarades sont là, entassées dans les galeries de la tribune, pour vivre ce grand moment qu'elles attendent depuis si longtemps, le droit de vote des femmes enfin va être discuté par les 441 députés de la Chambre. Tous des hommes, bien sûr. Mais parmi eux, c'est nouveau, de nombreux députés défendent les droits des femmes. En particulier, René Viviani et Aristide Briand, par chance pour elles, deux grands ténors de la Chambre.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Pour les conservateurs, c'est toujours la même rengaine. Les femmes et les hommes sont de nature différente, ils ont des rôles différents à jouer dans la société et donner le droit de vote aux premières risquerait de les viriliser. Quelle horreur! De plus, explique Edmond Lefebvre Dupré, il ne faut pas que les femmes, je cite, ne dépouillent à leur profit nos héros de la direction des affaires publiques. Autrement dit, qu'elles ne piquent leur place. Curieusement, c'est aussi au nom d'une prétendue nature féminine que les députés suffragistes argumentent, affirmant que la douceur des femmes et leur talent maternel seront très utiles à la nation. C'est l'éternel sexe de la sollicitude. Le 20 mai 1919, enfin, arrive l'heure du vote. Le texte légalisant le vote féminin est adopté par 344 voix. Seuls 97 députés ont voté contre. Une grande victoire, applaudie, on l'imagine bien, par les féministes et sans doute par de nombreuses Françaises. Mais c'était sans compter avec le Sénat. Le chef de file de l'opposition au droit de vote des femmes s'appelle Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, radical, franc-maçon et fervent républicain. Voilà ce qu'il déclare le 3 octobre 1919. Les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique ? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes ou des fiancées. Fin de citation.
On est à ce moment-là de l'histoire, un moment où on a encore ce type d'argument qui est encore entendu par une partie de la population avec l'idée que la remise en cause de la famille deviendrait problématique pour l'ensemble de la société, puisque on détournerait, comme le dit Alexandre Bérard, les femmes de leur rôle principal, et ça mettrait à mal la cellule fondamentale de la société. Néanmoins, à cette époque-là, on a aussi des femmes qui sont de plus en plus visibles dans l'espace public, qui travaillent, même si la fin de la Première Guerre mondiale a renvoyé beaucoup de femmes dans leur foyer pour laisser la place aux hommes qui revenaient. On a créé de nouveaux postes dans un certain nombre de domaines, notamment dans les assurances, les banques, et on a positionné là des femmes dans les administrations. Donc elles sont plus présentes et elles demandent aussi à influer davantage sur la destinée du pays, puisqu'elles vont être actives, payer des impôts, etc.
Et aussi, on voit que quelque chose a changé, puisque les députés ont voté massivement pour le droit de vote des femmes. Il y a quelque chose qui a changé, mais est-ce que les députés étaient totalement sincères ?
C'est la grande question qui se pose au lendemain du vote. Moi, je pense qu'une bonne partie de ces députés étaient sincères. Il y a un travail de longue haleine. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu des premières propositions de loi. Beaucoup de ces élus sont en faveur du vote, même des élus de droite. La Chambre des députés est et va rester tout du long de l'entre-deux-guerres en faveur du droit de vote des femmes. Et bien entendu, on ne peut pas exclure que quelques députés aient voté pour de manière un peu cynique pour laisser finalement le Sénat se débrouiller et refuser ce droit par la suite. Les sénateurs se considèrent eux-mêmes, ils le disent, comme les conservateurs de la République. Et quand on dit ça, on voit bien l'inertie qu'ils peuvent vouloir mettre sur des lois, comme celle du droit de vote des femmes, qui peuvent modifier considérablement la politique du pays. Et en fait, ils vont essayer de geler cette image ancienne de la République. Et ils ont le pouvoir de le faire, puisque la loi ne peut pas passer sans leur accord.
Parmi ces députés, parmi ces sénateurs, il y a beaucoup de francs-maçons. Comment se situe la franc-maçonnerie à l'époque? Il y a à la fois des francs-maçons qui sont pour le droit de vote féminin et d'autres qui sont contre.
Oui, en fait, à l'origine, la franc-maçonnerie va compter beaucoup de républicains en son sein. Et c'est pour ça que plusieurs des grandes féministes de la fin du XIXe siècle vont être elles-mêmes franc-maçonnes. Je pense à Maria de Rheims, qui est la première à créer une loge mixte. Et ces femmes vont développer leur républicanisme en même temps que leur anticléricalisme et ce volet franc-maçonnerie. Et on va avoir comme ça des femmes qui vont être soit franc-maçonnes, soit compagnonnes de route, compagnes de route de la franc-maçonnerie au début du XXe siècle. Donc on a une ambiguïté en fait de la franc-maçonnerie par rapport à ce droit de vote, sachant que la franc-maçonnerie reste un mouvement masculin et qui exclut les femmes de leurs propres instances. Donc voilà, on a un mélange là qui est très ambivalent.
En mai 1919, donc, le Sénat vote contre, le projet de loi est rediscuté 3 ans plus tard, et le résultat est le même. Et en 1925, pareil. On imagine la colère des suffragistes. À l'annonce du scrutin, dans les tribunes, une femme se lève et s'exclame par 3 fois d'une voix forte « Vive la République quand même !» avant d'être expulsée par un huissier. Cette militante de longue date s'appelle Maria Vérone, avocate et secrétaire de la Ligue pour le droit des femmes. En 1936, la victoire du Front populaire porte au pouvoir le socialiste Léon Blum qui, grande première, nomme des femmes au gouvernement. Pour les législatives, des féministes font du forcing en se déclarant candidates. Parmi elles, l'incroyable Louise Weiss, qui, rappelons-le, en 1979 sera députée au Parlement européen encore, le 28 juin 1936, elle n'hésite pas à venir perturber les courses de chevaux.
Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Madame Louise Weiss, envahirent le terrain.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend.
À l'été 1936, les députés présentent à nouveau le projet de loi au Sénat, qui, pour la 4e fois, le rejette. Anne-Sara Bouglé-Moalic, vous écrivez dans votre livre que 1936 jette les derniers feux du suffragisme militant. Que se passe-t-il? Les féministes sont dégoûtées, elles n'y croient plus?
C'est surtout que la guerre approche et que ça se sent beaucoup dans l'ambiance de cette époque. Et c'est vrai que là, il y a une forme de rétrécissement du champ politique, et notamment en ce qui concerne les revendications pour le vote féminin.
Merci Anne-Sara Bouglé-Moalic. Rendez-vous au prochain épisode. Nous verrons que c'est la résistance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va enfin légitimer, pour de bon, le droit de vote des Françaises.